Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Ce nouvel épisode de Chronique est rendu possible grâce au site autismeetsommeil.fr. Il s'agit d'un site d'information à destination des familles d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme, TSA, et des professionnels de santé s'occupant de ces enfants. Son objectif est de leur apporter les informations et les outils facilitant la prise en charge des troubles du sommeil. Pour ce dernier épisode de cette série sur les troubles du spectre de l'autisme, j'ai le plaisir d'accueillir une experte émérite, le docteur Carmen Schroeder, afin d'aborder les troubles du sommeil. Le docteur Schroeder, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Strasbourg, apporte une richesse d'expérience en tant que spécialiste du sommeil et coordinatrice d'un centre d'excellence dédié aux troubles du spectre de l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement. Elle éclairera notre compréhension sur la complexité de ces troubles, dévoilant des perspectives nouvelles et des conseils précieux pour ceux qui cherchent à mieux comprendre et à améliorer la qualité de vie des personnes ayant un TSA et des troubles du sommeil. Préparez-vous à plonger dans une conversation informative et engageante avec le docteur Carmen Schroeder. Alors que nous explorons les liens entre l'autisme et les troubles du sommeil, démystifiant ainsi ces sujets cruciaux pour le bien-être collectif. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour docteur Schroeder.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast de Chronique. Je vais commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Avec plaisir. Alors, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je suis aussi spécialiste sommeil et membre d'une équipe CNRS qui fait de la recherche sur le sommeil et des rythmes circadiens. Et je forme aussi les spécialistes sommeil en France. Donc, je coordonne le DNU national de sommeil pour toutes les différentes spécialités. Et entre autres, je suis aussi coordinatrice d'un centre d'excellence pour l'autisme et des troubles du neurodéveloppement à Strasbourg, StrasEnd.
Super, chouette. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, justement les troubles du spectre de l'autisme. Et on va beaucoup axer cet épisode sur les troubles du sommeil. Donc, je vais commencer en demandant, on sait que le sommeil joue un rôle important pour être en bonne santé. Est-ce que justement les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, elles sont plus sujettes à des troubles du sommeil ?
Oui, tout à fait. En fait, les personnes sont beaucoup plus sujettes à des troubles du sommeil. On dit à peu près 4 à 10 fois plus de troubles du sommeil, je crois en référence à un âge équivalent. C'est particulièrement important dans l'enfance. Et ça a été longtemps d'ailleurs, on ne savait pas pourquoi finalement les personnes avaient autant de troubles du sommeil, mais c'est très très nettement supérieur à la population générale.
Et justement, il y a eu des recherches de fait justement pour connaître un peu quels étaient les déclencheurs.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux types de mécanismes finalement qu'on peut distinguer. Donc, on sait aujourd'hui vraiment beaucoup de choses sur l'origine de cette difficulté de sommeil. Salomé, dans le podcast, le premier podcast sur le sommeil, a détaillé beaucoup de choses qui sont liées finalement à ce qu'on pourrait appeler un fonctionnement autistique. Alors, ça veut dire il y a donc la particularité au sein des troubles du spectre d'autisme, c'est une difficulté au niveau de la communication sociale et des interactions sociales, et puis d'un autre côté des activités restreintes, des intérêts activités répétitives, des intérêts restreints, ce fonctionnement va finalement faire plus des particularités sensorielles que notamment le soir, il y a une certaine tension, il y a beaucoup d'angoisse. Alors ça se déclare de différentes manières chez des enfants et adolescents, par exemple, qui ont aussi un retard de développement, contrairement à des personnes qui n'ont pas de retard de développement, mais il y a donc une certaine anxiété qui est très fréquente le soir pour laquelle il faut trouver effectivement des astuces. Donc ça peut être que effectivement le lâcher prise, hein, Salomé, elle indique par exemple si elle est trop frustrée de sa journée ou trop excitée parce que c'est trop bien passé, donc tout ce qui est un peu extrême dans son vécu peut déclencher effectivement plus des difficultés de sommeil, mais elle peut aussi dire, et ça c'est parfois sous-estimé, que finalement c'est aussi un moment qu'elle apprécie particulièrement parce que c'est là qu'elle est seule et qu'elle peut vaquer à aux occupations sans être dérangée donc par d'autres personnes. Alors elle est maintenant adulte, mais pour l'enfant ça va être je suis enfin seule dans ma chambre, plus avec mon frère ou ma sœur dans la plupart du temps et pas avec mes parents. Et parfois les enfants aiment beaucoup du coup faire autre chose pour eux-mêmes dans leur centre d'intérêt spécifique qui peut être très finalement moteur avec beaucoup de stéréotypies à ce moment-là qui peut être plus porté sur certains sujets d'intérêt, lire un livre très spécifique sur les dinosaures ou sur l'espace ou autre chose. Donc je dirais ça, et ça on pourrait détailler encore beaucoup plus, ça et autre chose. De l'ordre des préoccupations sensorielles peuvent faire que du coup la transition vers le sommeil est en soi déjà un peu plus difficile. Mais le deuxième aspect est vraiment un aspect biologique qu'on n'a pas connu pendant très longtemps. C'est vraiment depuis les années 2000-2005 qu'on connaît ça un peu mieux. C'est ces dernières années qu'on a fait vraiment une grande avancée à ce niveau-là. Il y a eu des chercheurs qui ont eu l'hypothèse que peut-être dans l'organisation de la préparation au sommeil et l'induction du sommeil, il pourrait y avoir des difficultés, et ils ont dosé la mélatonine le corps des personnes avec autisme produisait et qui était finalement excrétée dans l'urine. On a mesuré ça aussi chez d'autres personnes dans le sang, dans la recherche, hein, bien sûr. Et on a pu voir que les personnes avec autisme sécrète beaucoup moins de mélatonine que les personnes contrôles, et donc ont beaucoup plus de mal finalement de passer de l'état éveillé à l'état endormi, parce que la mélatonine normalement elle sert à beaucoup de choses, mais elle va signaler à l'horloge biologique qu'elle doit passer en mode nuit. Elle va aussi garantir qu'il y a un certain rythme de sommeil plus régulier qui s'installe. Et si on n'a pas la mélatonine à ce moment-là, on a du mal à induire le sommeil. Donc ça, c'est ce que Salomé décrit aussi. Donc, difficulté d'endormissement très, très précoce dans le cas de Salomé. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent quand même, précocement, difficulté à s'endormir. Parfois, on peut avoir des conséquences, je dirais, encore beaucoup plus graves que chez Salomé. Parce qu'une fois qu'elle s'endort, elle dit « après, je dors par contre ». Je dors bien et assez longtemps. Mais les personnes avec autisme très fréquemment ont des réveils nocturnes, et ces réveils sont vraiment particuliers parce qu'ils sont extrêmement longs. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on a longtemps pas su. Pourquoi ? Parce qu'on posait pas les bonnes questions. Donc tous les questionnaires posaient des questions sur la fréquence des réveils, mais pas sur la durée. Et c'est comme ça qu'on a raté cet épisode, alors que si on avait écouté, je dirais, les patients et les familles, ils auraient très bien pu dire, ou ils disaient aussi souvent, non mais quand il se réveille, il est réveillé pendant 3 heures, c'est pas 5 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est 3 heures, 4 heures, il est complètement réveillé et c'est comme si c'était le jour. Là aussi, on rattache ça beaucoup justement au déficit de la mélatonine, parce que certes, elle aide à induire le sommeil, mais elle protège aussi le sommeil au cours de la nuit, alors que chez les personnes avec autisme, souvent ce qui se passe, ils vont, une fois que le sommeil est induit, ils vont récupérer, mais après quelques heures, on a déjà assez bien récupéré, et après, ça ne suffit pas pour maintenir finalement le sommeil. Donc, le problème biologique, maintenant, il est mieux connu, il y a des recherches qui se sont faites, effectivement, et l'avantage, depuis qu'on connaît ça, on peut utiliser cette connaissance aussi en thérapie, bien sûr, complémentaire à toutes les thérapies que Salomé nous a bien expliquées ou sur lesquelles on va peut-être encore revenir.
Ouais, super, c'est hyper intéressant. Justement, ça me fait poser une question, justement, est-ce que les troubles du sommeil, ils arrivent pour je dirais, tout le monde dès l'enfance. Est-ce qu'il y a différentes étapes? Est-ce que ça arrive aussi à l'adolescence? Est-ce que ça peut aussi arriver à l'âge adulte ou ça peut être aussi tout au long de la vie?
Alors, très fréquemment, c'est très précoce. Comme l'a dit Salomé, c'est vraiment dès le départ. Les parents disent, c'est un enfant qui a du mal à stabiliser ses rythmes même, qui a du mal à s'endormir. Et s'il dort, il ne dort pas sur des longues périodes. Chez d'autres enfants aussi, on peut avoir assez rapidement la sieste qui soit ne se fait plus ou vraiment par petits bouts dans la journée, donc qui ont vraiment du mal à mettre leur rythme initial de veille et de sommeil en place. Dans les cas un peu plus rares, il y a une phase initiale où ça se passe plutôt bien. Et c'est finalement dans un deuxième temps, mais quand même tôt, hein, donc je dirais à partir de 3 ans, 4 ans, que les difficultés émergent. Là, c'est un peu plus fréquemment en lien aussi avec un fonctionnement autistique et peut-être aussi d'autres difficultés, notamment liées à la scolarité ou d'autres facteurs externes qui vont avoir une répercussion supplémentaire sur le sommeil. Donc du coup, on n'est pas peut-être pas dans cette situation pure. Et d'autres, il y a plein de questions qui sont ouvertes pour ces personnes qui commencent plus tardivement. On sait par exemple que globalement, par rapport à une population à développement dit typique, les très jeunes enfants sécrètent le plus de mélatonine dans la petite enfance et ça va diminuer dans la grande enfance, l'adolescence et à l'âge adulte. On n'a pas ces données-là longitudinales aussitôt chez les personnes avec TSA, mais on peut se poser la question si peut-être pour ces personnes qui commencent un peu plus tardivement, peut-être tout au début, le taux est encore suffisant et diminue par la suite. Donc tout ça, ce sont des variables pas encore connues, mais il y a des hypothèses effectivement qui existent. Mais la grande majorité ont vraiment ces difficultés très précocement.
Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a aussi différentes formes? Parce que il y a des personnes qui ont des difficultés à s'endormir et comme Salomé ont une parfaite nuit. Il y a des personnes qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Est-ce que justement il y a différentes formes comme ça de troubles du sommeil?
Absolument. Les troubles d'endormissement sont les plus fréquents, mais suivis de très peu, en fait. Hein, par, je dirais, troubles d'endormissement, c'est certainement le cas dont environ 50% des enfants, par exemple. Donc, c'est vraiment, vraiment très fréquent. À ça s'associe des réveils nocturnes qui concernent plutôt entre 20 et 30% des enfants. Qui peuvent être du coup plus longue durée et un peu plus rares, mais particulièrement importants pour les parents, souvent sans des réveils matinales précoces. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui ont déjà du mal à s'endormir. Certains ont des réveils, mais surtout après 4h30 ou 5h du matin, la nuit est terminée. Donc ça, c'est le contraire de ce que dit Salomé. Et là, c'est vraiment, ce sont ces combinaisons de troubles du sommeil qui sont particulièrement épuisants du coup aussi pour la famille, pour les parents surtout, les mamans surtout. Mais aussi pour la fratrie, parce que l'enfant fait beaucoup de bruit lors des réveils nocturnes. Donc, Salomé a eu des troubles du sommeil très embêtants, très chroniques, mais les troubles du sommeil sont aussi un spectre et il y a des formes beaucoup plus graves que ce que l'a décrit Salomé finalement.
Ok, d'accord. Et justement, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer aux troubles du sommeil? On a un peu parlé tout à l'heure justement du stress, de l'angoisse, de l'excitation aussi parfois. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer?
Ah, tout à fait. Peut-être un élément qu'on a moins souligné encore tout à l'heure. Donc en fait, on a parlé de l'anxiété, du stress. On a parlé des facteurs biologiques, mais si je reviens peut-être à ce qui est lié au fonctionnement autistique, ce sont des troubles sensoriels. Donc beaucoup beaucoup de personnes avec autisme ont ces difficultés. Ça veut dire vous avez peut-être détaillé ça aussi dans d'autres épisodes, on est hypo ou hypersensible dans un ou plusieurs domaines sensoriels, par exemple une hypersensibilité auditive ou une hypo, mais ça peut être plus difficilement reconnaissable par l'environnement, comme par exemple des hyposensibilités proprioceptives. Ça veut dire quoi? On sent moins son corps où ils se trouvent dans l'espace, en quelque sorte. Ces enfants-là, par exemple, ils aiment être tenus, ils aiment être contenus, notamment quand ils sont jeunes, souvent la seule façon, en fait, les parents arrivent à ça, c'est de s'endormir avec un de leurs parents qui les serre fortement dans les bras. C'est pas seulement un contact où un parent doit être présent dans la chambre, mais ce sont vraiment les cliniques où les enfants cherchent à être entourés, etc. Bien sûr, tous ces aspects-là, on doit en tenir compte pour aménager ça, parce qu'on ne peut pas juste dire à ses parents, du coup, non, il ne faut pas être présent à l'endormissement de votre enfant. Évidemment, les parents savent qu'ils ne doivent pas être présents à l'endormissement de leur enfant, mais ils sont arrivés là parce que c'était réellement un besoin, par exemple, de leur enfant. Et à ce moment-là, il faut chercher à des stratégies alternatives. Salomé en a parlé pour d'autres aspects. Très typiquement, chez les enfants qui ont ce type de difficultés, on peut tester, par exemple, des couvertures lestées. Peuvent du coup procurer le même type d'appui profond, lourd, et l'enfant se sent rassuré, il sent des contours de son corps, etc. Donc ça, c'est par exemple un des aspects. Mais ça peut se jouer au niveau du toucher, ça peut se jouer au niveau de l'odorat, etc. Et probablement d'autres formes qu'on connaît un peu moins, tout ce qui est lié à un ressenti, par exemple, digestif, etc. Donc ça, c'est très compliqué. Et là, on a encore plein de recherches à faire qui peut créer des inconforts qui peuvent aussi empêcher le sommeil. Et ça, c'est d'ailleurs, les associations de famille nous remontent beaucoup de ça. Et on le voit aussi en consultation, mais il n'y a quasiment pas de recherche qui a été réalisée encore à ce niveau-là. Donc, tout un champ encore à découvrir.
C'est ça. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et du coup, je me permets de rebondir, mais en effet, on a enregistré un épisode avec Mélanie autour de l'activité professionnelle. Et c'est vrai qu'on a abordé le sommeil. Et en effet, elle dort avec une couverture lestée, elle en parlait, et c'est très intéressant d'aborder, de voir les différentes thématiques.
C'est ça. Et au niveau scientifique, alors si on me demande, bon, est-ce que c'est scientifiquement prouvé, je dois malheureusement dire non, parce qu'il y a une ou deux études qui ont regardé ça, mais ils ont regardé ça sur toute la population des enfants avec TSA. Effectivement, ça ne correspond pas du tout à tout le monde, donc ce n'est pas une solution magique, donc il ne faut pas maintenant se ruer sur les Internet et acheter tout de suite la couverture lestée. C'est vraiment particulièrement pour ces personnes qui ont une hyposensibilité proprioceptive et où on a déjà un peu de toute façon qui ont ce type de comportement au moment du coucher, du rituel du soir, etc. Donc, okay. Je pense que là aussi, il faut encore des meilleures études, plus précises pour avancer le champ scientifique.
C'est ça. Et puis, comme vous le dites, c'est nuancé parce que ça ne convient pas à tout le monde. On peut tester, mais c'est pas... ça n'accorde pas avec tout le monde. Est-ce que on peut aussi aborder toute la partie justement des impacts et des répercussions au quotidien en fait pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, parce que c'est vrai que si on se réveille plusieurs fois la nuit ou si on a un réveil de 4-5 heures, on a quand même un trou assez long en fait de non-sommeil dans la nuit, donc les répercussions doivent être aussi importantes sur le quotidien.
Exactement. Et pour ça, peut-être, je vais d'abord vous décrire un peu les répercussions qu'on peut avoir chez l'enfant et l'adolescent, mais ça s'applique aussi à l'adulte quand on est neurotypique. Parce qu'en fait, il y a une partie de ce que Salomé nous a décrit, c'est vraiment lié au fait qu'elle a parfois pas assez dormi et toutes les personnes à sa place auraient un peu la même répercussion. Il y a d'autres choses qu'il a mentionnées qui sont beaucoup plus spécifiques à la population avec TSA. Donc, on a tout d'abord, quand on ne dort pas assez ou pas assez bien, on a vraiment des répercussions physiques. Parce que souvent, on pense que c'est que cérébral, émotionnel. Non, on a vraiment aussi physique. Et notamment chez les jeunes enfants, on peut avoir un impact sur le développement, sur le moteur, si le trouble est sévère. Même pour certaines, sur une répercussion sur la croissance ou au niveau métabolique. Donc, ça peut exister. Chez l'enfant à développement dit typique. Après, ce qui est aussi très typique par rapport au sommeil, ce sont des répercussions dites cognitives, ça veut dire notamment sur l'attention. Et je pense que tout le monde qui écoutera ce podcast a des expériences personnelles. On n'a pas bien dormi, on oublie ses clés à la maison, on ne sait plus où on a mis son portable, etc. Donc, on est un peu plus tête en l'air. Et ça, clairement, ça on trouve toujours la première fonction qui est touchée. Si par contre, on a un trouble du sommeil qui dure assez longtemps, on peut avoir vraiment des problèmes de mémorisation et ça impacte du coup les apprentissages. Forcément, plus d'impact chez l'enfant en développement parce qu'il est à l'école, il va rater des choses, il ne va pas pouvoir aussi bien l'imprimer, comme on dit, c'est-à-dire il ne consolide pas ce qui a été encodé la journée aussi bien que d'autres. Après, il y a une question sur la vigilance qui est particulièrement intéressante parce que nous, adultes, et ça, Salomé le décrit bien, elle dort un peu moins bien, donc qu'est-ce qui se passe la journée? Ben, elle est très fatiguée, voire, comme on dit, nous somnolents, donc elle a une facilité à s'endormir, même dans les situations où il ne devrait pas dormir, l'école, le travail, voilà. Ça, c'est chez le grand adolescent et adulte typique, mais chez les jeunes enfants, on a un peu l'inverse, c'est-à-dire l'enfant sent bien venir la fatigue et la somnolence, mais le jeune enfant n'aime pas du tout ça et va lutter contre. Et ce qu'il va faire, il va se mettre en hyperactivité motrice. Donc, il va courir dans tous les sens, il va bouger partout et les parents vont d'ailleurs dire « Ah non, non, il n'est pas fatigué, il est juste complètement agité. » Non, non, ça vient en fait d'une fatigue perçue contre lequel l'enfant lutte. Et ce qui vient avec ça souvent aussi, c'est une irritabilité. Là aussi, hein, je pense que chacun a sa propre expérience. Alors, il y a les personnes qui deviennent plus, c'est plus, comme on dit, internalisé, c'est-à-dire plus on devient émotif, on pleure pour un rien. Et chez d'autres, c'est plus externalisant, donc plus agressivité, irritabilité, on gronde ses enfants, on n'est pas sympa avec son conjoint. Donc, tout ça, ça existe en population générale comme répercussion sur le sommeil et du coup peut avoir un impact bien sûr sur l'entourage, les proches, la famille, etc. Alors, chez les personnes avec autisme, ce qu'on a montré par contre, que ça renforce vraiment aussi leurs symptômes autistiques. C'est-à-dire, si eux dorment moins bien, pendant la journée, ils peuvent moins bien reconnaître encore les émotions que c'est déjà à la base le cas. Ils vont aussi pouvoir avoir plus de difficultés dans la communication sociale, gestuelle, percevoir les émotions de l'autre, etc. Ils vont aussi être beaucoup plus dans les stéréotypies. Donc nous, dans nos recherches, on a pu montrer, on a quantifié ça parce qu'on a enregistré les personnes sur les longues périodes à la maison, dans leur environnement habituel, et on pouvait voir que jusqu'à 30% des stéréotypies, des comportements stéréotypés, pouvaient s'expliquer par des difficultés de sommeil ou de rythme. Donc, ça touche même des symptômes autistiques purs, je dirais, qui sont aggravés, qui se trouvent aggravés. Et ça va aussi aggraver tout ce qui est comorbidité. J'imagine que vous avez dans d'autres podcasts parlé du fait que le TSA n'arrive rarement seul. 70% des personnes ont au moins une autre comorbidité, donc autre difficulté. Et notamment tout ce qui est, alors soit les difficultés au niveau des comportements auto-hétéro-agressifs ou l'anxiété associée ou voire les difficultés d'humeur de type symptomatologie dépressive associée se trouvent aussi fortement aggravées si on a des troubles du sommeil. Vous voyez, c'est un peu à la fois des répercussions, je dirais, pas spécifiques au TSA et d'autres qui sont vraiment spécifiques au TSA. Et d'ailleurs, quand on prend en charge les troubles du sommeil, et c'est ça qui est un peu magique parfois, d'un coup, les parents vont dire « mais l'enfant globalement va vraiment mieux ». En fait, il est beaucoup plus ouvert, il est moins dans les stéréotypies. Et chez les jeunes enfants, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire un enfant qui est moins envahi par ses stéréotypies va pouvoir beaucoup plus être ouvert vers son environnement et aussi mieux bénéficier des prises en charge. Parce que parfois, on a des situations, notamment dans l'enfance et l'adolescence, où l'enfant est tellement fatigué qu'il ne est super pris en charge la journée, mais il peut même pas en bénéficier parce qu'il est juste trop fatigué. En
fait. C'est ça, ouais. Et on a vu aussi des répercussions peut-être sur l'entourage, peut-être sur les parents ou sur le conjoint ou la conjointe, justement, à l'âge adulte.
Alors, Salomé disait, je trouvais assez intéressant, il faut être vraiment patient par rapport à ça, ma famille est très patiente. Alors ça, je trouve un message très sympa à dire pour les familles. Moi, je vais leur passer un autre message qui n'est pas contraire mais complémentaire. Faut pas être trop patient. Pas trop patient dans le sens pas avec l'enfant, mais il faut pouvoir s'en plaindre auprès de quelqu'un, il faut chercher de l'aide parce que c'est épuisant pour une famille. Et il y a des familles des familles monoparentales, des familles qui sont eux-mêmes déjà en grande difficulté ou qui ont même aussi des difficultés à dormir. Pour eux, ce n'est pas possible d'attendre des années que ça s'améliore peut-être un jour, voilà. Donc, vous pouvez chercher de l'aide, hein. Il faut absolument en parler au médecin traitant, au pédiatre, parce qu'on peut réellement améliorer les choses, donc ce n'est pas une fatalité, et se faire aider par des professionnels de santé, toujours d'abord dans des approches vraiment simples, adaptées, faire une analyse, comme dit analyse fonctionnelle, comme dit Salomé, essayer de comprendre d'où ça vient, essayer d'améliorer les choses. Mais si ça ne suffit pas, il y a parfois aussi des traitements nécessaires. D'ailleurs, Salomé dit, elle-même bénéficie en plus du reste d'un traitement médicamenteux.
Ouais. Justement, ça va dans ma prochaine question qui était quel type de professionnel de santé, en fait, il est possible de rencontrer pour peut-être alléger ces troubles. Est-ce que, justement, c'est de voir le médecin traitant? Est-ce qu'il y a des spécialistes aussi spécifiques sur le sommeil?
Alors, il y a bien sûr, hein, comme toujours, il y a des experts, mais qui ne sont pas aussi accessibles en nombre et parfois aussi en région, hein. que d'autres professionnels. Donc, clairement, la première porte est le médecin traitant, le pédiatre, parce qu'il peut déjà poser des diagnostics d'un trouble du sommeil, de dire on est plutôt dans le champ des insomnies, par exemple, ou voilà. Et à ce moment-là, de voir comment on prend ce problème-là. Souvent, le pédiatre peut déjà fournir certains conseils. Alors, on peut les prendre, essayer de tenter si ça suffit. Si on a un diagnostic de TSA, on a souvent des spécialistes qui nous suivent, dont des psychologues comme Salomé, très bien formés, qui peuvent du coup vraiment adapter peut-être ces recommandations un peu généralistes que les pédiatres ont, mais à la situation spécifique de cet enfant, de cette famille, de ce que souhaite aussi la famille, parce que c'est vraiment un peu de la dentellerie, hein. Donc on a une base, mais il faut vraiment l'adapter à chaque patient qui est. Et par contre, ces premières approches, les pédiatres peuvent aussi instaurer un traitement complémentaire si c'est nécessaire. Et si ça ne suffit pas aussi, cette première ligne, là, c'est intéressant de s'adresser à des spécialistes du sommeil. Alors, soit les pédiatres ont leur référence, mais on peut aussi les trouver via des réseaux qui existent, notamment actuellement le réseau Morphée. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre dans les ressources. Notamment un réseau francilien, mais extrêmement fiable, très bien documenté. Tous les médecins chercheurs du sommeil, presque en France, qui travaillent dans ce domaine, ont contribué à ce site qui est régulièrement actualisé. Et on trouve là les brochures avec des bons conseils. On trouve des agendas de sommeil pour pouvoir faire une première analyse, des questionnaires sur le sommeil, etc. Donc, on peut aussi s'aider et amener parfois aussi ces documents chez les pédiatres pour avancer et sinon trouver des spécialistes du coup du sommeil qui existent mais qui sont un peu moins nombreux bien sûr que les médecins de première ligne.
Mmh. Oui, ça marche. Bon, on mettra les liens justement de réseau Morphée parce que c'est vrai que nous on a déjà entendu pas mal parler avec ma pato, mais c'est bien de rediffuser le message. Mmh. Et est-ce que ça me fait penser aussi à Salomé, justement elle parlait qu'elle faisait de la méditation, que ça pouvait l'aider. Est-ce que justement il y a d'autres approches non médicamenteuses qui existent, parce que peut-être que la méditation c'est peut-être peut-être juste un a priori, mais peut-être est-ce que c'est peut-être plus compliqué à faire avec un enfant en bas âge aussi?
Alors avec les enfants en bas âge, on n'appellera pas ça la méditation, mais à partir, on peut avoir des petites approches à partir de 3-4 ans en douceur. Par exemple, un livre en population générale, c'est Calme comme une grenouille. C'est un livre qu'on peut bien conseiller sur la pleine conscience adaptée aux tout petits. Au départ, on peut faire avec leurs enfants et après, les enfants peuvent devenir un peu indépendants en le faisant. Mais c'est vrai que ça ne concernera pas la majorité des enfants et adolescents ou adultes avec TSA, parce que pour beaucoup, ça ne serait pas accessible, rien que d'écouter des textes parfois un peu compliqués. Voilà. Non, les premiers conseils sont vraiment chez les jeunes enfants, surtout comportementaux. Donc, vraiment mettre des règles en place, des rythmes très, très clairs, un rituel plus, on appelle ça parfois des rituels ou des routines le soir. Il faut que ça soit extrêmement réglé, prévisible. Ce qu'on dit parfois, voilà, il y a une certaine rigidité de fonctionnement, mais pourquoi il y a cette rigidité? Parce que c'est anxiolytique d'être un peu rigide. Si on sait ce qui va se passer, si c'est très prévisible, bah, ça diminue très fortement l'angoisse chez nous tous, mais ça va être encore plus vrai chez les personnes avec un trouble du spectre autisme, parce que on a bien pu décrire ça, et Salomé l'a dit un peu, parfois on a besoin d'aide au codage, elle dit, ou décoder les émotions, voilà. Il y a aussi de ce fait un manque de la façon de prédire ce qui va se passer. Donc tout ce qui peut nous rassurer et nous aider à prédire les bonnes choses, que réellement c'est ça ce qui va se passer, ça c'est très bien. Donc du coup, on a des rituels en place, mais on va les renforcer par des supports visuels, des séquenciers. Et ça aussi, les personnes qui écouteront ce podcast pour la majorité connaissent déjà les TSA, je pense. Donc, on trouve ça sur Internet. Il y a différents types de pictogrammes qu'on peut utiliser. Ça trouve beaucoup des personnes à nouveau et des enfants de leur de capacité de compréhension. Mais c'est très très important parce que ça donne un peu une règle pour un enfant de se repérer dans la soirée ou pour un adolescent et même pour un adulte. Et il y a plein d'outils qui nous aident en fait à mettre ça clairement en place de manière bien visuelle. Et ça, ça aide déjà beaucoup. Après, tenir compte des particularités sensorielles aussi. Et il y a certaines techniques comportementales qu'on peut utiliser qui sont faciles à mettre en place. Et pour ça, ce sont par exemple une qui a un terme anglais qui s'appelle le bedtime fading. C'est aussi expliqué dans une brochure qu'on peut télécharger sur soit le site de Autisme Sommeil ou sur le site du réseau Morphée, hein, gratuitement accessible, où on va tenir compte du fait quand est-ce que l'enfant s'endort réellement. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on va le coucher. Juste transitoirement, par exemple, un enfant qui est couché à 21h et malheureusement, comme Salomé, il ne s'endort jamais avant 23h. Ce qui va se passer, cette personne va être 2 heures dans son lit et ne pas pouvoir s'endormir. Alors souvent, les enfants s'occupent, hein, soit ils allument la lumière, ils lisent ou ils jouent ou certaines attendent dans le noir, mais ils peuvent pas s'endormir. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont soit associer leur lit avec un endroit pour jouer ou pour lire, ou un endroit où on ne peut pas dormir. Mais en tout cas, rien de tout ça favorise le sommeil. Nous, on aimerait bien que le lit est un endroit uniquement pour le sommeil. Et pour ça, de sorte que quand on se couche, on associe ça tout de suite et notre corps l'associe au sommeil. Donc, le fait de coucher l'enfant à un horaire où réellement il s'endort, transitoirement, ça crée cette confiance à nouveau dans son sommeil. Le fait, j'arrive à m'endormir quand on me couche. En même temps, on va lever l'enfant à un horaire pas trop tardif. Donc, on crée transitoirement un peu un manque de sommeil, on pourrait presque dire, mais en fait, une restriction. Mais ce sommeil va être de meilleure qualité et avec un endormissement plus rapide. Et si après 2 semaines, par exemple, ou 3, c'est stable, à ce moment-là, on va progressivement rendre le coucher plus tôt à nouveau. C'est-à-dire, là, on va avancer progressivement le coucher. Et l'enfant garde souvent la même confiance dans son sommeil. Si on avance de 10 minutes, c'est pas une grande différence. Et après, encore de 10 minutes et encore de 10 minutes. Et du coup, jusqu'à ce qu'on ait un horaire à nouveau beaucoup plus acceptable. Donc, ce type de technique que je vous explique un peu simplement et rapidement, on peut le retrouver aussi dans ces brochures et c'est aussi à travailler sinon avec des spécialistes de sommeil qui fonctionnent assez bien ces techniques comportementales.
Chouette. Et justement, pour toute la partie conseil, quel conseil justement on pourrait donner aux parents d'enfants qui ont un trouble du sommeil?
Alors, des conseils sont vraiment de suivre ces premières recommandations. Ici, les parents, alors l'idéal, c'est de trouver un spécialiste qui connaît déjà bien ça. Mais si, imaginons, on a un médecin traitant, un pédiatre qui est très volontaire, mais qui ne connaît pas très bien le sujet, on peut s'aider avec ces outils sur le réseau Morphée ou sur Autisme Sommeil que vous trouvez pour déjà préparer le terrain, venir avec finalement un agenda de sommeil rempli, un questionnaire de sommeil rempli, ça va aider le professionnel aussi. Et à ce moment-là, discuter aussi avec les psychologues, par exemple, qui prennent en charge l'enfant et peut-être leur demander, eux peuvent suivre aussi des modules que nous avons préparés, des modules en ligne qui sont justement pour former à ces techniques dites comportementales ou en tout cas non pharmacologiques et peut-être leur conseiller de regarder ça parce qu'avec leur formation initiale, ça peut faire que, par exemple, le psychologue qui maîtrise très bien les TCC mais qui ne connaît juste pas trop bien le sommeil, qui ne sait pas trop comment l'adapter au sommeil, ça les permet d'acquérir cette compétence supplémentaire et du coup travailler un peu mieux encore peut-être avec la famille. Donc tout ça, ces premières étapes sont vraiment aujourd'hui assez accessibles.
Chouette. C'est hyper important justement de se dire, on en parlait tout à l'heure, mais parfois de là où on habite, on n'a pas forcément tous les types de professionnels qui existent, donc d'avoir ces ressources-là, c'est hyper important. Et du coup, justement, la dernière question du podcast, c'est est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est peut-être aussi toutes les ressources qui peuvent exister sur Internet actuellement et qui sont hyper importantes.
Oui, alors la première chose, c'est que ce n'est pas une fatalité. Donc, il ne faut pas se dire, mais bien sûr, il a des troubles du sommeil parce qu'il a un autisme, mon fils, mais de se dire, non, il a d'une part un trouble du spectre de l'autisme, d'autre part, il a un trouble du sommeil, certes, les deux sont fréquemment associés, mais si j'améliore le sommeil, ça va déjà nous faire du bien à tout le monde, mais on va probablement aussi avoir un peu une amélioration de la symptomatologie autistique. Donc, de prendre ça au sérieux, de s'y atteler. Donc, avec quelles ressources ? Donc, vraiment des documents grand public sur les deux sites Réseau Morphée et Autisme Sommeil qu'on peut conseiller parce que ça a été vu par des experts du sommeil et du neurodéveloppement, justement. D'essayer de mettre ses premières approches en place, mais aussi de signaler, et là c'est une consultation médicale obligatoirement, à son médecin traitant, pédiatre ou neuropédiatre ou pédopsychiatre, justement, si ça ne suffit pas pour qu'on puisse éventuellement bénéficier d'une solution médicamenteuse, parce que ça peut parfois vraiment changer complètement la vie des personnes. Et peut-être une tout dernier mot aussi, parce que moi j'apprends tous les jours et j'ai cette chance-là dans ma profession, on apprend avec nos patients. Donc oui, on est experts, nous, des matières hein, de neurodéveloppement, du sommeil, mais ce sont toujours les patients qui sont experts d'eux-mêmes et les parents qui sont experts de leurs enfants. Donc ça nous permet, nous, constamment aussi d'évoluer. Et j'ai trouvé ça très joli ce que j'avais entendu dire une maman qui dit, alors moi ce qui m'aide beaucoup, c'est que quand je suis réveillée la nuit, parce que mon enfant est réveillé et je suis vraiment assez désespérée, je m'imagine, il y a en France beaucoup d'autres mamans ou papas dans la même situation à ce moment-là. Et je regarde parfois les étoiles, mais je dis, bon, il y a d'autres personnes qui sont à ce moment-là réveillées parce que leur enfant n'arrive pas à dormir. Je ne suis pas seule, parce que c'est vrai que des troubles du sommeil, il y a la particularité, on est souvent seul à les affronter. Soit les personnes eux-mêmes seules, soit avec les familles ou les mamans ou les papas seuls. Et donc, c'est ça qui rend cette gestion aussi difficile. Elle est vécue parfois et très douloureuse à cause de ça aussi. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Et il y a vraiment des solutions pour en sortir.
Super. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Carmen, d'avoir pris le temps de nous expliquer les troubles du sommeil.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapato.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez ! Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.